Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Les couilles sur la table, épisode 37. Dans cet épisode, nous allons examiner les liens entre les violences sexuelles, la socialisation des hommes et la culture française. Nous allons discuter de cette idée selon laquelle les vrais hommes ne violent pas. Le viol et les violences sexuelles sont des faits graves et pourtant extrêmement répandus. On estime que 12% des femmes en France ont déjà été victimes de viols. Et que les victimes soient des enfants, des hommes adultes ou des femmes, les violeurs ont en commun leur genre, ce sont à 98% des hommes. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans ce podcast. Dans l'épisode 18, avec la chercheuse Noémie Renard, nous avions fait le point sur ce qu'on savait des violeurs et nous avions démonté les idées reçues les plus courantes sur le viol. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que un viol, c'est rarement un inconnu armé d'un couteau dans une ruelle sombre qui attaque une jeune fille court vêtue. En fait, 70% des viols sont commis par des hommes que la victime connaît et la plupart sont commis avec préméditation, sans armes, souvent sans coups et sans que la victime ne se défende puisqu'elle est souvent dans un état de sidération. Maintenant que ce travail a été fait, nous allons réfléchir dans cet épisode à la façon dont les violences sexuelles peuvent servir à prouver sa virilité. Soit qu'on commette des violences sexuelles, en les appelant autrement bien sûr, soit qu'on en accuse les autres pour définir des figures repoussoires de masculinité déviante. On va aussi discuter de notre culture de séduction à la française, de l'amour courtois, des liaisons dangereuses, de l'affaire DSK, et enfin de comment ces codes masculins peuvent servir à faire taire et à ridiculiser les hommes qui peuvent eux aussi être victimes de violences sexuelles. Bonjour Valérie Ré-Robert.
Bonjour.
Vous êtes connue sur Internet sous le nom de Crêpe Georgette. Vous faites bénévolement et depuis des années sur votre blog et sur Twitter un travail d'éducation, de pédagogie féministe, mais aussi de réflexion et de production d'idées neuves qui nous font toutes et tous avancer. Vous avez commencé très tôt, à l'époque où Gucci n'imprimait pas encore le mot féministe sur des t-shirts à 500 euros. Et donc, après toutes ces années à écrire sur votre blog, crêpegeorgette.com, et à porter un regard féministe sur l'actualité sur Twitter avec votre compte Valérie CG, voici enfin votre premier livre. Ça s'appelle « Une culture du viol à la française » et c'est publié aux éditions Libertalia. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par un point de définition d'un terme qui est souvent mal compris. Qu'appelle-t-on la culture du viol ?
Alors la culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les violeurs, les victimes de viol et les viols eux-mêmes. Et invariablement, ces idées reçues vont concourir à déresponsabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les viols. Alors pourquoi on parle de culture ? C'est intéressant de constater qu'en France, beaucoup de gens ont une idée extrêmement restreinte du mot culture auquel ils accolent systématiquement un sens positif.
Comme dans France Culture.
Dans ce contexte-là, en fait, le terme culture désigne juste l'ensemble des pratiques dans une société donnée. Et donc pourquoi on va parler de culture du viol ? Parce que ces idées reçues vont se transmettre de génération en génération, vont évoluer avec le temps et vont imprégner toute la société, c'est-à-dire qu'elles vont imprégner les mentalités, le langage, les lois, les arts, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot culture, mais ça ne veut pas dire qu'on accole un sens positif au mot viol.
Je repense à la remarque de Israël Nizan, le président du collège de gynécologie, qui s'était indigné parce qu'il avait dit « mais vous rendez compte, cette militante dit que j'ai la culture du viol ». Mais en fait, on vit tous dans la culture du viol.
Oui, on vit tous, on est élevé avec des idées reçues sur les violeurs, typiquement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le violeur, c'est généralement un homme inconnu armé d'un couteau qui viole une femme dans un espace public la nuit. Ça, c'est une idée reçue qui imprègne très tôt nos mentalités. Et donc, si on croit à cette idée reçue, ça veut dire qu'on baigne dans la culture du viol. Ça ne veut pas dire qu'on est un violeur, ça n'a strictement rien à voir, ça veut juste dire qu'on a des idées reçues sur le viol. Et comme on est beaucoup à les avoir, en fait, on n'est pas une personne isolée, c'est pour ça qu'on va parler de culture.
C'est ça, et ça produit des effets, et ça produit des œuvres culturelles, etc. Et
donc,
vous, c'est ce que vous examinez dans votre livre, et vous dites aussi qu'il y a une spécificité bien française à cette culture-là, même si elle existe dans tous les pays du monde.
C'est ça.
Il y a des traits culturels en France qui en font une culture du viol un peu différente de celle d'autres pays. Mais on va y revenir après. Donc, on sait que les garçons sont élevés de façon très différente des filles. Bon, ça, c'est pareil, on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, c'est même tout l'objet du podcast. En quoi le fait de considérer que le masculin l'emporte sur le féminin, que tout ce qui est féminin, c'est dévalorisé, que ce qui est masculin, c'est valorisant. Donc, on le voit dans le fait qu'on explique aux petits garçons qu'il ne faut pas se comporter comme les filles, et surtout que ça va être dégradant pour eux de se comporter comme les filles. En quoi cette éducation-là peut favoriser les violences sexuelles ?
Alors c'est très important en fait de comprendre que pour lutter contre les violences sexuelles, il faut lutter bien en amont, comme vous le dites justement, contre les stéréotypes de genre. Pourquoi ? Donc en fait, il y a tout un tas d'études qui sont malheureusement plus produites aux États-Unis, donc on a assez peu d'écho en France, qui montrent que dès les premiers âges de la vie, par exemple, les petits garçons sont bien moins éduqués à supporter la frustration que les petites filles. On constate qu'un petit garçon, s'il pleure, va être plus rapidement nourri qu'une petite fille. Ça vaut pour les nouveau-nés. S'il pleure, ses parents, de préférence la mère, puisque c'est plus la mère qui s'occupe des enfants, va plus rapidement le prendre dans les bras, le cajoler, avoir des interactions avec lui. Et ça se reproduit à tous les âges de la vie, en fait.
Et dans plein de domaines différents.
Dans plein de domaines différents. On constate, par exemple, ça c'est des expériences qui ont été menées en Suède, donc dans un pays qui est remarquablement en avance en termes de féminisme et d'études sur les stéréotypes de genre. On a constaté que dans certaines classes, les institutrices et instituteurs demandaient systématiquement aux petites filles d'aider les petits garçons à mettre leur manteau, à faire leurs lacets, à les aider pour les devoirs, etc. Et donc ils ont dû lutter en gros contre les stéréotypes qu'ils avaient pour arrêter de dire à des petites filles qui avaient le même âge que les petits garçons qu'elles devaient être leurs auxiliaires. Donc tout ça, ça entraîne quoi mécaniquement ? Ça entraîne que les petits garçons et les petites filles vont tous et toutes considérer qu'au fond, les désirs des petits garçons importent plus que les désirs des petites filles. Et donc, il ne s'agit pas de faire un lien immédiat en disant ah ben ça va entraîner des violences sexuelles, mais donc ça entraîne une différence de perception entre les désirs des petites filles et les désirs des petits garçons. Les désirs des petits garçons importent plus et les désirs des petites filles importent moins. On va plus cultiver l'individualité des garçons, moins celle des filles. On va apprendre aux filles à s'occuper des petits garçons, quitte à moins s'occuper d'elles-mêmes. Et aux garçons, on va plus apprendre l'égoïsme, le fait de ne pas supporter la frustration, etc.
Les désirs, les vécus, les volontés des garçons sont vécus collectivement comme plus importants que ceux des filles.
Tout à fait. Et donc ça, c'est très important dans les violences sexuelles, puisqu'on constate que commettre un viol, c'est ne pas respecter la volonté et le désir de l'autre.
Donc c'est quelque part penser que son propre désir est beaucoup plus important que le désir de la personne qu'on viole.
Exactement. Et c'est un sociologue américain, Michael Kimmel, qui démontrait que chez les jeunes blancs américains, le passage à l'âge adulte, pour certains, se fait aussi par des violences sexuelles. Parce que c'est en quelque sorte affirmer sa virilité envers les femmes et aussi face aux autres hommes.
Oui, sauf que c'est jamais considéré comme étant des violences sexuelles. C'est comme
tout
des rites
fait.
De... En fait, les violences sexuelles sont des rites de virilité.
Des rites de virilité, des rites de socialisation entre hommes. Ça a été montré aussi pour les viols collectifs, qui ont été étudiés dès le Moyen-Âge. Il y avait visiblement pas mal, même si c'est difficile à dénombrer, de viols collectifs au Moyen-Âge. Et il a été amplement démontré que oui, ça participe à la socialisation des hommes entre eux. On le retrouve aussi dans des corps de métiers extrêmement masculins et constitués, comme par exemple les pompiers, où il y a eu des viols collectifs tant de femmes que d'hommes, par exemple lors de bizutage, qui servaient à réaffirmer l'esprit de corps et la socialisation masculine.
Et on pense aussi à d'autres actions de violence, hein, de se battre contre d'autres hommes. La guerre, c'est quand même une activité hautement virilisatrice aussi pour les hommes. Enfin, les violences en général sont vues comme positives du côté des hommes.
Oui, tout à fait.
Vous écrivez ça aussi que, en fait, dans une société qui valorise la violence, donc la violence interpersonnelle, mais aussi la violence étatique, mm-hmm. ça favorise aussi un climat de violence sexuelle.
Alors, en fait, on a constaté que les personnes qui adhèrent à certaines idées sur la violence, c'est-à-dire que les violences éducatives, donc c'est-à-dire les violences à l'égard des enfants, seraient légitimes dans certains cas, le fait que la torture serait légitime dans certains cas, le fait que la peine de mort pourrait s'expliquer, sont aussi des personnes qui vont plus volontiers considérer que les violences sexuelles peuvent s'expliquer dans certains cas. Alors, ça ne veut pas dire que celles qui ne justifient pas la violence étatique n'ont aucune idée reçue sur les violences sexuelles, mais pour le moins, on sait l'inverse, c'est-à-dire que justifier la violence étatique peut justifier les violences sexuelles.
Donc on l'a dit, ces idées reçues sur le viol, elles sont présentes dans tous les pays du monde. Mm-hmm. Mais en France, il y a quand même une spécificité. Oui. Donc c'est l'historienne américaine Joan Scott qui le rappelle. C'est qu'en France, une partie de l'identité nationale française est basée sur la pratique de la séduction. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même un argument qui revient sans arrêt à chaque fois qu'on parle de violences sexuelles et de viol. Il y a de ci, de là, des éditorialistes, des philosophes, des essayistes, etc., qui rappellent que, ah non, mais en France, on sait s'aimer. En France, c'est le pays de l'amour courtois, de l'agrivoiserie, du doux commerce entre les sexes, etc. Et donc, vous écrivez que si dans beaucoup de pays, il est possible de simplement remettre en cause les violences sexuelles, en France, cela implique de convoquer 500 ans de littérature, 400 auteurs classiques et 1000 ans de civilisation. Mmh. C'est vrai que, et vous faites aussi la remarque que, par exemple, quand il y a eu le hashtag Balance ton porc, qui était l'équivalent français du hashtag MeToo, tout de suite, il y a des voix qui se sont élevées pour dire attention, pour comparer la dénonciation des violences sexuelles et la délation des juifs sous le régime de Vichy. Mmh. Quoi. C'est quand même incroyable.
En fait, ça en disait long sur les deux points de comparaison, en fait. Parce que d'un côté, c'était, à mon avis, profondément négationniste, parce que c'était oublier que les juifs qui ont été dénoncés, arrêtés, déportés et assassinés n'avaient que le tort d'être juifs. Ils étaient innocents, contrairement aux hommes qui étaient dénoncés pour des violences sexuelles. Donc ça relativisait profondément les crimes qu'ils ont subis et le génocide qu'ils ont subi. Et de l'autre côté, ça voulait dire que les femmes et les hommes qui dénonçaient les violences sexuelles étaient en quelque sorte comparables à des traîtres à la nation, puisque maintenant les personnes qui ont dénoncé des juifs pendant la guerre sont vues comme des traîtres à la nation. Je dis maintenant parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est à mon avis une comparaison qui est extrêmement intéressante, parce que j'entends parfaitement qu'on puisse critiquer le hashtag, qu'on puisse critiquer le mot balance, mais pourquoi choisir systématiquement cette comparaison-là? Et j'ai l'impression que par cette comparaison, les gens inconsciemment ont considéré que dénoncer les violences sexuelles en France était être traître à la nation. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, on assume parfaitement le fait, contrairement à d'autres pays, que oui, on aime l'ambiguïté sexuelle, on aime une femme qui dit non en pensant oui, on aime une certaine violence entre les sexes, voire même on la revendique, et que donc en fait, pour ces gens-là, pour ces éditorialistes-là, qui nous comparaient aux collabos, bien au fond, dénoncer les violences sexuelles, c'était de ne rien comprendre à la façon dont on fait l'amour en France, qui, oui, certes, est empreinte de violence, mais c'est très bien comme ça, il n'y a rien à y changer, ça fait partie de notre patrimoine.
Ça fait partie de notre patrimoine, et puis c'est une marque de culture, de distinction, et de raffinement, en fait.
De raffinement, et c'est ça qui est extrêmement curieux, parce que DSK, à plusieurs reprises, à la fois en 2011 et en 2015, alors qu'on avait connaissance des actes dont il était accusé, qui étaient des actes exceptionnellement violents, était comparé à un gentleman français, à un libertin, un homme extrêmement courtois, alors que tout dans ses actes nous montrait qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et pourtant, la comparaison était faite dans tous les éditos prenant sa défense pour expliquer aux féministes et aux Américains qui l'avaient arrêté en 2011 qu'en gros, ils comprenaient rien à ce qui s'était passé et que l'amour, c'est ça. Or, si l'amour à la française, ce sont les actes violents qu'a commis DSK, qu'on me permet de m'étonner quand même.
Ouais, c'est Pascal Bruckner qui écrit, vous le citez dans votre livre, mm-hmm. Donc Pascal Bruckner, qui a publié nombre d'essais, qui est une figure plus ou moins respectée quand même, hein, dans le paysage intellectuel français, qui disait
par
que...
certains, oui.
Oui, en tout cas par certains. Il écrivait dans Le Monde, nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos amis américains, mais certainement pas l'art d'aimer. Alors justement, penchons-nous sur ce fameux art d'aimer à la française. Et en remontant au plus loin, c'est à la racine de ce qu'on appelle la courtoisie, donc de l'amour courtois. En quoi ça consiste, cet amour courtois qui naît au XIIe siècle? À quoi ça ressemble, une relation dans l'amour courtois, dans le fin amour?
Alors déjà, il faut bien préciser que des historiens comme Georges Duby, qu'on saurait qualifier de féministes, expliquent que les récits d'amour courtois sont avant tout des récits écrits par des hommes, pour des hommes. Ce sont des récits qui sont fantasmés, qui sont sublimés, qui se lisent entre hommes, au point qu'il a pu qualifier ce type de récit d'homoérotique. Il ne signifiait pas qu'il y avait des relations homosexuelles entre hommes, mais que tout au moins se raconter ces récits-là entre hommes disait quelque chose des relations. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, ce qui compte le plus au Moyen-Âge, ce n'est pas l'amour hétérosexuel entre un homme et une femme, ce qui a très peu de place, mais c'est plutôt les rapports d'amitié extrêmement forte, extrêmement virile entre hommes. C'est ça qu'on met sur un piédestal. Et on a tout un tas d'idées reçues, sans doute, je pense, à cause du cinéma, sur cet amour.
Sur l'amour courtois, l'amour courtois, c'est, enfin, avant moi d'avoir lu dessus, l'image que j'en avais venant de la culture populaire, quoi, c'est une gente dame courtisée par un chevalier, prêt à se battre pour elle, qui lui offre des fleurs et lui chante des poèmes, quoi.
En fait, les historiens montrent très bien que si le chevalier fait le don de sa personne à une femme, de toute façon, au Moyen-Âge, on n'entend pas un don sans un contre-don. Donc elle se retrouve dans l'obligation de répondre à sa demande, tout en sachant qu'elle risque la mort et que lui-même risque la mort. Et certains historiens montrent qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'amour courtois, c'est plus le fait que le chevalier s'oppose à son seigneur. Donc c'est plus en fait une histoire entre deux hommes qu'une histoire entre un homme et une femme.
Oui, parce que la dame en question, en fait, voilà, la relation de fin amour, comme elle ne peut avoir lieu qu'entre une dame qui est déjà mariée à un seigneur et un chevalier plus jeune. Et donc en fait, l'enjeu de cette relation, c'est pas véritablement la femme en question, c'est la rivalité entre le seigneur et le chevalier.
Tout à fait. Et puis on constate que dans de nombreux récits, il y a également des histoires de viol qui sont passées très rapidement sous silence dans le récit, qui posent au fond pas de réels problèmes. Donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas fétichiser des œuvres classiques, des œuvres médiévales, et à les lire avec un regard critique.
Bah vous citez l'exemple de Lancelot, de Chrétien
III,
où Gauvin tue un chevalier, puis après il viole la demoiselle qui était sous la protection de ce chevalier. Ensuite, il tue le père du chevalier, il tue les frères, il se réconcilie avec le dernier frère, et puis finalement, il n'épouse même pas la fille qu'il a violée.
Non, et on peut imaginer
super l'amour courtois.
Voilà, on peut imaginer qu'une femme violée à cette époque-là, donc qui n'est plus vierge, n'a pas connu un sort très très enviable.
Non, mais c'est quand même incroyable la transformation de cette relation qui est profondément inéquitable et violente, etc., en summum du commerce entre les sexes. Enfin,
oui, parce qu'on reste sur l'idée que l'homme propose et la femme dispose, en fait. C'est quand même un slogan qu'on entend un peu partout.
Et qui est encore valable, hein, dans les codes amoureux, voilà, contemporains, hétérosexuels et tout. Il y a quand même l'idée que l'homme propose, la femme dispose.
Tout à fait, sans qu'on questionne sur quel moyen a la femme de disposer. Comment elle peut disposer? Est-ce qu'elle a le choix? On va sans doute en parler plus tard, mais on verra que dans les liaisons dangereuses, il y a un viol qui est jamais présenté comme tel.
Ah bah parlons maintenant des liaisons dangereuses, parce que dans le genre figure du séducteur à la française, le vicomte de Valmont se pose là aussi.
Oui.
Donc pareil, alors ça, moi je l'ai lu adolescente, les liaisons dangereuses, j'étais passée complètement à côté. Enfin, il m'agaçait un peu le vicomte de Valmont, mais j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Donc, petit rappel hein, pour les auditrices qui n'auraient pas lu ou n'auraient pas vu les films tirés des liaisons dangereuses, c'est un roman épistolaire écrit à la fin du XVIIIe siècle par Pierre Chauderlot de Laclos, qui, à travers des lettres, décrit les relations entre le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, et des proies, en fait, hein, qu'on peut quand même appeler des proies, de Cécile de Volanges et puis de Madame de Tourvel. Et donc, le vicomte de Valmont reste dans la culture populaire comme, pareil, la figure de la séduction, du séducteur à la française, fin, cultivé, stratège, extrêmement intelligent, rusé et tout. Bon, je relis le roman cet été, et en fait, Valmont, c'est juste un forceur, en fait. Il est insupportable. En plus, quand on lit ses lettres, en fait, c'est pas du tout des sommets de raffinement. En fait, il ne cesse d'insister. C'est
oui,
ça sa technique,
fait.
En fait. En fait, il insiste. Mais, je veux dire, c'est l'équivalent du mec d'aujourd'hui qui enverrait des textos tous les jours en disant du harceleur, en fait. S'il te plaît. Ah bah, si t'es pas d'accord, je vais le faire quand même. Bon, et donc, il est devenu la figure du séducteur à la française. Et effectivement, il y a une scène de viol, en fait. Mm-hmm. Voire plusieurs, mais enfin, il y en a quand même une que vous décrivez, vous, dans votre livre, qui est le viol de Cécile de Volanges par le vicomte de Valmont.
Oui, parce qu'en fait, donc il la met dans une situation où de toute façon, donc il lui demande de rentrer dans sa chambre, il la met dans une situation où de toute façon, elle ne peut pas crier, elle ne peut pas le repousser, donc elle n'a d'autre choix que céder, et on sait bien, depuis les travaux féministes, que céder n'est pas consentir. Mais cette scène-là ne nous est jamais présentée comme un viol lorsqu'on étudie ce livre au lycée ou ailleurs.
Oui, il a été plusieurs fois au programme du bac, des liaisons dangereuses. C'est vrai que c'est jamais présenté comme un viol, alors qu'elle, elle dit non, elle a toujours dit non. Et il finit par rentrer dans sa chambre et il lui dit si vous appelez, je dirais que c'est vous qui m'avez fait entrer. Quoi.
Voilà, et donc elle sera perdue. Sa réputation sera ternie et elle sera perdue, elle ne pourra plus épouser personne. Enfin, sa vie sera finie. Et c'est extrêmement intéressant qu'on continue à nous présenter. Et d'ailleurs, quand le livre a été traduit en film par deux ou trois fois, par des Américains, eux-mêmes ont adopté l'image de Valmont comme le séducteur français type, sans proposer aucune critique justement de ce personnage. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que je pense que maintenant les choses évolueraient, je pense que les Américains verraient les choses un petit peu différemment dans le personnage de Valmont. Mais c'est ce que je montre dans mon bouquin, grâce aux travaux de Maxime Tricknot, qui est un chercheur, qui explique qu'il y a vraiment un danger à fétichiser ces œuvres classiques et à refuser de les étudier sous le prisme du féminisme ou sous le prisme du genre. On peut lire une œuvre classique et la critiquer, ça lui ôtera pas de sa valeur, en fait. C'est ça qui est important.
Oui, parce que moi, pendant que je lisais Liaison dangereuse, je trouvais quand même que la langue était belle et qu'il y a plein de choses très très intéressantes. Et puis rien que pour ça, c'est aussi intéressant, en fait.
Et puis on peut se demander, en plus, Chauderlot-Laclos met dans la bouche de la marquise de Merteuil des paroles claires, où elle explique que de toute façon, les femmes ne peuvent jamais être gagnantes au jeu de l'amour. Donc on peut considérer aussi, et c'est le cas de certaines féministes, que Chauderlot-Laclos avait une position féministe dans ce livre.
D'ailleurs, il a commencé un essai sur l'éducation des filles après. Mais bon, c'est un autre sujet. Mm-hmm. Mais même époque que les Liaisons dangereuses, ce sont les tableaux de Fragonard que vous étudiez aussi dans votre livre. Alors, donc, pour les auditrices qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas le tableau en tête, je vais vous le décrire. En fait, c'est une scène où on voit une porte et on voit une femme qui a l'air de repousser un homme du bras et l'homme vient de verrouiller la porte. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Et en fait, ce tableau-là a très souvent été décrit comme étant la représentation d'un état de transport amoureux, en fait, avec une femme qui refuse, et donc il y avait quelque chose de très érotique là-dedans. Alors que, en fait, si on la regarde bien, enfin, moi je trouve qu'elle a quand même pas l'air d'accord, quoi. Et vous dites que c'est ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu toute une exposition à Paris il y a quelques années qui s'appelait Fragonard amoureux, et que c'était ce tableau-là, qui est quand même très ambigu, qui avait été choisi pour illustrer le thème de Fragonard amoureux. Donc c'est dire à quel point le non-consentement est perçu comme excitant dans notre culture.
Alors en fait, ce qui était intéressant dans cette expo, donc ça devait être en 2015 au Musée du Luxembourg à Paris, c'est que déjà, il y avait des tableaux et des esquisses dont le titre était explicitement viol. Donc déjà, elles étaient présentées dans une expo intitulée Fragonard amoureux. On avait effectivement le tableau Le Verrou, donc comme vous le disiez, il y a controverse, est-ce que c'est un adultère, est-ce que c'est un viol? Les historiens de l'art sont partagés là-dessus. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a controverse. Et pour autant, le commissaire d'exposition, qui était évidemment parfaitement au courant de cette controverse, a choisi ce tableau. Et c'est extrêmement intéressant qu'il fasse quand même le choix de choisir ce tableau en sachant la controverse, parce que ça nous dit quelque part que lui-même ne voit pas réellement de problème à ce qu'un tableau qui est potentiellement un viol puisse être barré d'un fragonard amoureux. Donc ça voudrait dire que le viol sera au fond proche de l'amour. Et il y avait aussi un autre tableau qui était intéressant dans l'expo, qui s'appelait La résistance inutile, qui est un tableau où on voit une soubrette qui est renversée sur un lit, on voit ses culottes bouffantes, et en fait elle est renversée sur le lit par son maître. Et effectivement, immédiatement, on repense à DSK en 2011 au Carlton. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'une femme de ménage, qu'est-ce qu'une soubrette, que ce soit au XVIIIe siècle ou au XXIe, peut faire face à quelqu'un qui est infiniment plus puissant qu'elle, qui a les moyens financiers, économiques de se protéger. Et c'était aussi curieux de voir ce tableau dans une expo sur Fragonard amoureux, sur l'amour, parce qu'on peut se demander où est l'amour entre une servante qui n'a pas la possibilité en fait de dire non face à son maître.
On a déjà parlé de DSK, mais mm-hmm. on va quand même y revenir à la figure de Dominique Strauss-Kahn, hein, qui était alors président du FMI. Mm-hmm.
Et surtout futur président.
Il allait se déclarer candidat à la présidentielle.
Non, à la primaire socialiste. Mais il était déjà vu dans tous les journaux comme le futur président
français. Oui, vraiment. Et donc, à propos de DSK, lui s'est défendu en disant qu'il avait une sexualité un peu brutale, plus brutale que la moyenne.
Un peu plus rude que la moyenne.
Et puis, pour le défendre, on se souvient de l'expression de l'ancien directeur de Marianne, qui parlait d'un simple troussage de domestique.
Qui est encore une expression qui relève en fait de la tradition française, c'est-à-dire que au XVIIIe siècle, oui, on troussait les domestiques, mais
Alors
qu'en fait, on les violait. Puisqu'elles n'avaient pas le pouvoir. À partir du moment où elles n'avaient pas le pouvoir de dire non, c'est un viol, tout à fait.
Bien sûr. Et donc, lui s'est défendu en disant que voilà, qu'il était séducteur et qu'il ne s'agissait que de cela, quoi. Mm-hmm. Et il y a eu plein d'autres cas, comme lui. Enfin, souvent, ça rejaillit, cet argument-là, de la séduction à la française. Vous citez le cas de Claude Lanzmann, par exemple.
Tout à fait.
Grand cinéaste.
Oui.
Néanmoins. Accusé de...
D'agression
sexuelle. Et là, pour lui, les journaux ont parlé cet été d'un séducteur brusque, d'un séducteur narcissique, d'un séducteur insatiable. Donc, il y a quand même une tendance en France à confondre le sexe consenti et le viol.
Je dirais qu'il y a tendance en France... Pour un certain type d'homme, à confondre le sexe consenti et le viol. Curieusement, quand il s'agit de Tariq Ramadan, personne ne confond rien.
Ah ben on va en parler, voilà. on va discuter de ça.
Et on peut s'en louer. On peut s'en louer que dans le cas de Tariq Ramadan, on ne confonde pas les deux choses. Mais on peut s'étonner que pour d'autres hommes, systématiquement, alors qu'ils ont eu des pratiques aussi violentes que Tariq Ramadan, du moins d'après ce qu'ont raconté les femmes qui en ont été victimes, là on s'empresse de confondre les deux.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Je voudrais terminer avec une figure justement que les... Parce que donc en France, on se moque beaucoup des Américains en disant qu'ils sont puritains, qu'ils comprennent rien à l'amour, etc. Et donc les Américains, enfin aux États-Unis, ont dès 45 créé un personnage de séducteur à la française qui s'appelle Pépé de Pew. Donc c'est Pépé le putois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez déjà vu. Donc c'est dans Looney Tunes. Et je vais vous faire écouter un extrait.
Elle est quand même très susceptible, non? Je vous aime! Votre voix est un chant céleste. Parfois, je me demande, Pépé, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et à chaque fois, je me dis, oui! Oui, ça en vaut la peine! Pépé, vive l'amour! Quelle voix imprenable! C'est superbe! Dans mes bras, ma chérie, il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi, puisque l'amour nous réunit. Rassurez-vous, elle craquera. Juste une question de temps.
Pépé le putois, cette caricature de séducteur à la française dans le cartoon américain, termine, donc ce cartoon se termine par ces mots, ce n'est qu'une question de temps, elle craquera. Enfin là, on a vraiment toutes les caractéristiques du harceleur, en fait.
Tout à fait.
Qui lui utilise les mots embrasser, amour, notre destin, etc. Mais en fait, il ne fait qu'insister, insister, insister auprès d'un personnage féminin qui refuse absolument et très fermement, quoi.
Oui, qui lui envoie des signes de refus clairs et pourtant il continue à insister et c'est sous l'angle du cartoon, bah c'est traité de façon parfaitement humoristique. Alors il y a peut-être une certaine dénonciation, mais plus je pense pour se moquer des Français à l'époque que pour réellement montrer qu'il y a un problème à séduire de cette manière. Je pense que c'était pas visible à l'époque.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la version américaine, il a un accent français quand il parle anglais, et puis là, dans la traduction qu'on vient d'entendre, la traduction française, c'est un accent italien.
Oui.
Et donc, ça nous amène à la deuxième question, le deuxième grand thème de cette émission, qui est comment les violences sexuelles sont utilisés comme pour définir des figures repoussoires de la masculinité, c'est-à-dire que l'idée c'est que les hommes violents, les hommes violeurs, c'est toujours les autres en
fait.
C'est les figures d'autres. Et ça, on le voit très bien avec l'exemple d'un scandale des années 2000 qui a été le scandale des Tournantes.
Mm-hmm.
Donc c'était des viols collectifs qui avaient lieu dans les banlieues et dont les médias se sont alarmés, les partis politiques se sont alarmés, etc. Est-ce que vous pouvez nous remettre en mémoire le contexte et comment ça a été décrit ?
Alors en fait, apparaissent dans les années 2000 l'idée qu'il y aurait en banlieue énormément de viols collectifs commis par des jeunes de banlieue. Alors on emploie l'expression jeunes de banlieue, mais évidemment on désigne des jeunes noirs et des jeunes arabes. Et pourtant, à l'époque, tous les sociologues vont démontrer qu'il n'y a pas une augmentation des viols collectifs, qu'ils ont toujours existé, que donc il y en a encore à l'époque, mais qui sont absolument pas en augmentation. Et pourtant, tous les politiques, Front National en tête, vont nous vendre l'idée d'une banlieue, enfin de quartier populaire où les jeunes noirs et arabes passeraient leur temps à violer à 15 d'innocentes jeunes femmes. Et cette idée va être extrêmement exploitée dans les médias. On va employer un terme spécifique, donc le terme tournante au lieu de parler de viol collectif, et va s'asseoir en fait vraiment l'idée, l'idée existait avant, mais elle va continuer à être renforcée, que les jeunes noirs, les jeunes arabes ont une masculinité extrêmement négative, extrêmement misogyne, et qui sont obsédés par le fait de violer des femmes, en particulier des femmes blanches, et pour ça ils reculent devant rien jusqu'à les violer en quelque sorte.
Ouais, donc en fait là on voit bien comment les violences sexuelles ça sert à disqualifier la masculinité des autres, quoi.
Tout à fait.
Et j'ai retrouvé une interview de Gérard Depardieu. Donc Gérard Depardieu a évoqué dans plusieurs interviews des viols collectifs qui avaient lieu dans la ville où il a grandi, à Châteauroux. Il a dit par exemple cette phrase que j'ai relevée, il dit « Ces viols existaient quand j'étais môme, ils doivent sans doute exister encore dans les fêtes foraines, les bals de village, quand les mecs sont en bande avec des filles plus ou moins consentantes. » Il dit « Ça n'a rien à voir avec un viol dans un train de banlieue ou avec ces pauvres filles victimes de tournantes dans les caves de cité. Non, c'était des nanas qui faisaient partie de la bande. Et puis un soir, tout ce petit monde boit un coup de trop, ça s'échauffe et voilà. » Alors qu'en fait, des viols collectifs, peu importe où ils ont lieu, comment ils ont lieu, avec qui ils ont lieu, ça reste des viols collectifs. Enfin...
Oui, mais c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que quand des viols sont commis par des proches ou auxquels on a même parfois participé, on a tendance à plus les qualifier comme tels. On a une sexualité rude, on s'est échauffé un peu trop. Alors que quand c'est les viols commis par les autres, par le pauvre, par l'homme racisé, par l'homme de pouvoir, parce qu'en fait tout fonctionne selon le même système, là on accole le terme de viol.
Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de se refaire une image de sa bonne masculinité.
Tout
parce
à fait.
Que nous, on n'est pas comme ça.
Tout à fait.
Les vrais hommes ne violent pas.
Voilà, c'est ça. Si on étudie la filmographie de Clint Eastwood, on constate que le viol y est extraordinairement présent. Qui passe quand même son temps à punir des violeurs, qu'il se restaure une sorte de masculinité, puisque Eastwood incarne vraiment le tough guy américain, et que parallèlement, lui aussi en commet, mais les viols qu'il commet sont jamais vus comme tels, en fait. Puisque, invariablement, de toute façon, les femmes en ressortent fort satisfaites, souriantes et amoureuses de lui. Alors qu'elles ressortent traumatisées des viols commis par les gars méchants qu'il va finir par tuer. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que il y a toute une reconstruction de la virilité sur le dos des hommes violeurs, c'est-à-dire que ou sur le dos des hommes qui commettent des actes misogynes, c'est-à-dire que les hommes, au lieu de se questionner sur la virilité elle-même, puisque rappelons que en France les statistiques nous disent que 98% des viols sont commis par des hommes, ça veut donc bien dire que c'est la masculinité, la virilité qu'il faut interroger sur qu'est-ce qu'elle produit pour qu'il y ait des viols. Or, au lieu de s'interroger sur ça, on va plutôt se dire que c'est des formes ratées, dévirilisées, mauvaises.
Déviantes,
ouais. Qui produisent du viol, plutôt que de se dire que c'est au contraire la bonne image de la virilité qui produisent des viols. Et donc plein d'hommes vont se reconstruire une image sur le dos de violeurs en disant ah non, mais moi je ne viole pas, donc ça veut dire que j'ai une bonne image de la virilité, alors que ceux qui violent sont des hommes déviants, des hommes qui ne sont pas virils, les tarés, etc.
Oui, c'est comme beaucoup d'hommes ne vont pas avoir de mots assez violents pour dire ce qu'ils aimeraient faire à des violeurs, donc il faut les mettre en prison, il faut les zigouiller, il faut les castrer.
La castration revient extraordinairement souvent.
Ouais, il faut leur couper les couilles et tout ça.
Je trouve ça intéressant.
Ouais, ouais.
Ça en dit long.
Ben voilà.
Ouais.
Et en même temps, ces condamnations-là, verbales, permettent de dire que nous, on n'est pas de ce côté-là. Quoi. Eux ne sont pas de ce côté-là.
Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà dit que la violence interpersonnelle entre hommes est sans aucun doute responsable en partie des violences sexuelles. Donc, considérer qu'il faut punir les violeurs par la violence, souvent d'ailleurs ils disent qu'il faudrait punir les violeurs par le viol, contribue juste à entretenir une atmosphère de violence qui entretient elle-même les violences sexuelles. Donc c'est vraiment contre-productif.
Un autre cas qui montre bien comment les violences sexuelles commises par d'autres hommes permettent de forger une image de ce que serait la bonne virilité, c'est le cas de Tarek Ramadan.
Oui, tout à fait.
Parce que Tarek Ramadan donc, a été accusé de viol et d'agression sexuelle. Mm-hmm. On a tout de suite fait le lien avec le fait qu'il soit musulman.
C'est ça. C'est-à-dire que lorsque plein d'hommes célèbres ont été accusés de viol en France, la plupart des éditorialistes français, on a le cas avec DSK tout à l'heure dont on parlait, ont cherché à les excuser. On a parlé de sexualité rude, etc. Dans le cas de Tarek Ramadan, les victimes ont tout de suite été crues. Donc, en tant que féministe, on aurait pu être contente, mais on s'est tout de suite étonné du traitement extrêmement différencié des unes et des autres. Et dans le cas de Tarek Ramadan, il y a eu des très longs éditos qui étaient tout entiers consacrés à l'islam de Tarek Ramadan. Donc qu'est-ce que ça voulait dire dans ce contexte-là? Que c'était l'islam qui était responsable des actes que Tarek Ramadan avait commis. Or, moi je veux bien qu'on affirme ça, mais pour l'affirmer, il faut le prouver. Et pour qui est un petit peu expert des violences sexuelles, si on étudie les violences qu'a commises Tarek Ramadan, on constate bien que c'est un prédateur tout à fait lambda, tout à fait classique, qui a utilisé son pouvoir, sa cour de fans pour essayer de faire taire les femmes. Et il y a rien que très classique là-dedans. Et c'est même allé... lorsque Tarek Ramadan donc, a été accusé de viol, il a eu comme tous les hommes accusés de viol, des soutiens extrêmement forts qui s'en sont pris à la victime et qui ont crié au complot. Mais rappelons que c'est vraiment le cas de tous les hommes. Il n'y a rien de spécifique au soutien de Tarek Ramadan. Et là encore, on a eu beaucoup d'articles qui écrivaient que ah mais ça c'était bien spécifique aux Arabes que d'aller défendre un violeur. En fait, on a eu ces termes-là dans la presse. Or, encore une fois, moi j'ai étudié les théories qu'ont développées les soutiens de Tarek Ramadan, qui en gros accusaient la victime d'être une salope, Tarek Ramadan d'être un pauvre innocent, et qui avait un gros complot sioniste au milieu de tout ça, ou juif, ou quoi, ou qu'est-ce. Ce sont des idées qui sont extrêmement courantes. Dans le cas de DSK, il y a des soutiens...
Ah bah, les théories du complot, il y en a eu.
Voilà, exactement. Et donc, dans le cas de Darmanin, qui était accusé de viol, El Kabbach, sur une heure de grande écoute, a dit « Alors, Monsieur Darmanin, qui c'est qui vous en veut autant pour vous faire un coup pareil ?» Donc, encore une fois, on voit bien que tous les hommes célèbres accusés de viol ont des soutiens qui vont crier au complot et qui vont les défendre, un spécifique à Ramadan. Et on constate bien qu'en fait, dans le cas de Ramadan, les victimes ont été instrumentalisées, le combat contre les violences sexuelles a été instrumentalisé pour faire tomber un homme dont on n'aime pas les pratiques. Alors, musulmane. Alors, par ailleurs, pourquoi pas? Mais pourquoi instrumentaliser ces violences-là à ce moment-là? Ça donne une impression de malaise profond et d'islamophobie.
C'est encore cette idée que on se sert des violences sexuelles pour définir la masculinité qui est légitime et la masculinité qui est déviante ou problématique et qui est là, comme par hasard, la masculinité qu'on attribue aux hommes arabes, aux hommes racisés, aux hommes musulmans, dans un contexte effectivement islamophobe en France. Je voudrais qu'on aborde la troisième manière dont la masculinité se construit en lien avec les violences sexuelles. Et là, je pense aux violences sexuelles que subissent les hommes. Parce que la culture du viol, elle pousse au déni, à la honte, à l'isolement, les victimes de viol, qui sont en immense majorité féminines. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de viol, qui peuvent aussi être violés. Et c'est justement les mêmes normes de masculinité qui empêchent la prise de conscience et la prise de parole sur ce sujet-là. Il y a 13% des Français qui pensent qu'un homme ne peut pas être violé. Donc, en fait, bien sûr que si, un homme peut être violé, c'est tout à fait possible. Selon l'enquête CSF, il y a 5% des hommes qui déclarent avoir subi des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. Donc ça existe quand même. Mais pareil, quel lien on peut faire entre ces normes masculines, les normes de la virilité, et le grand tabou que sont les violences sexuelles que subissent les hommes?
Alors, parce qu'en fait, on considère, dans tout viol, on continue quand même à considérer qu'il soit commis sur une femme ou sur un homme, que de toute façon, il suffirait de se débattre suffisamment pour s'en sortir. Mais c'est encore plus vrai dans le cas d'un homme, puisqu'on considère qu'un homme doit être viril, il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas se laisser faire. Donc, un homme qui serait violé, ça serait que quelque part, il l'a bien voulu. Parce que de toute façon, il lui suffisait de se débattre, de mettre un coup de poing sur le nez de l'autre pour s'en sortir. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, s'il est violé ou agressé sexuellement par une femme, c'est encore plus inimaginable, parce que de toute façon, un homme, par définition, ne peut pas avoir peur d'une femme, sinon c'est vraiment qu'il est moins que rien, qu'il n'est pas un homme. Et puis en plus, il est estimé, par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle où une femme serait pénétrée par un homme qui ne serait pas consentant, que s'il a eu une érection, comme on a tendance à voir la sexualité masculine de façon un petit peu mécanique et primaire, s'il a une érection, c'est forcément qu'il est consentant. En rappelant bien aux éditeurs et auditrices qu'avoir des signes physiques pendant un viol, c'est-à-dire mouiller, avoir une érection, n'est absolument pas un signe de consentement ou qu'on aime ça. C'est juste le corps qui se manifeste.
Donc un homme peut être violé par une femme, bien sûr.
Bien sûr, tout à fait.
Mais dans la culture populaire, le viol des hommes est systématiquement tourné en dérision. C'est quelque chose de ridicule.
Oui, c'est quelque chose de ridicule, d'impossible. Et c'est fortement entaché, de toute façon, si un homme est violé par un autre homme, d'homophobie. Parce qu'on estime, en fait, ce qui n'a absolument aucun sens, qu'il ne veut pas dire qu'il est homosexuel, donc il préfère dire qu'il a été violé. Ça n'a pas de sens, mais c'est quand même une explication qu'on retrouve très souvent.
Même chose pour les viols en prison.
Tout à fait.
Qui est pareil, un sujet de blague.
Qui est un sujet de blague ou alors qui est traité sous l'angle « Ah mais de toute façon, s'il n'était pas allé en prison, ça ne lui serait pas arrivé. » Oui, par définition. Mais en fait, comme on a très très peu tendance à s'interroger sur les conditions des détenus et que beaucoup considèrent que de toute façon, si les conditions sont mauvaises, ils les ont bien cherchées, ça leur fera les pieds. Et qu'on aussi, comme il y a une très très mauvaise connaissance des viols, beaucoup de gens pensent que les gens qui sont violés en prison sont les violeurs, les pères incestueux, les pédophiles criminels, etc. C'est au fond que justice qu'il soit violé.
Oui, c'est ça. C'est quand même l'idée. Mais enfin, quand bien même, en plus...
Ah non, mais il est bien évident que rien,
que
jamais,
personne
ne mérite,
jamais
d'être,
ne mérite d'être violé.
Tout à fait.
Ni les femmes, ni les hommes, ni les enfants, ni personne.
Quels que soient les actes qu'ils ont commis, jamais.
J'ai une question un peu délicate à vous poser. On voit que la culture du viol, ça nous concerne tous, qu'on connaît tous, on a tous forcément dans notre entourage quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles, mais ça veut aussi dire qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a commis des violences sexuelles.
Bien sûr.
Et je pense aux auditeuristes qui nous écoutent, et là en particulier aux auditeurs. Je me dis que forcément, statistiquement, certains d'entre vous ont commis des violences sexuelles, les auditeurs.
Bien sûr.
Et si ce n'est pas vous, vos amis, vos parents, vos cousins, vos connaissances, vos potes, etc. Et moi, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont commis des violences sexuelles. Et je ne leur ai pas encore répondu parce que je ne sais pas quoi répondre. Et si on commence, heureusement, grâce aux associations féministes, à savoir ce qu'on doit dire à quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles, à savoir « je te crois, c'était pas ta faute, c'est grave, t'as bien fait de m'en parler, etc. », je sais pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on sait qu'on a commis des violences sexuelles. C'est quoi l'attitude juste à avoir? Parce que, évidemment, l'immense majorité des violences sexuelles, elles pourront jamais être jugées. parce que les faits sont prescrits, parce qu'il n'y a pas eu de plainte déposée, parce que c'est très très difficile de juger des violences sexuelles quand elles sont pas quand elles ont eu lieu il y a longtemps, quand c'est pas exactement caractérisé, enfin. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plein d'hommes qui ont commis des violences sexuelles et qui seront jamais jugés pour ça. Et pourtant, ils le savent.
Je dirais en premier lieu que pour les hommes qui ont violé des femmes ou d'autres hommes qui ne voient plus, il ne s'agit pas d'aller implorer le pardon ou chercher du réconfort auprès de leur victime. Parce que pour de multiples raisons, la victime peut ne pas avoir conscience qu'elle a été violée, donc il n'y a pas à lui réimposer ça. Elle peut ne pas avoir envie de revoir le violeur ni d'en discuter avec lui, donc ce sera à mon avis une violence supplémentaire que de retourner la voir. Pour ceux qui continuent à vivre avec leurs victimes, qui ont par exemple violé leur compagne actuelle dans le passé, je pense qu'il est important de demander et de voir avec leur compagne ce qu'elle souhaite et de s'interroger eux-mêmes sur pourquoi ils ont commis ces actes, sans se déresponsabiliser, parce que je vois à l'heure actuelle une tendance chez les hommes qui se disent féministes à utiliser le concept de culture du viol pour dire c'est pas moi, c'est la culture, j'étais agi, il y a un déterminisme, je pouvais pas faire avec. Faut quand même leur rappeler qu'il y a aucun déterminisme, fût-il social, qu'on est Dieu merci libre d'agir au-delà des stéréotypes de genre, au-delà des contraintes qui nous sont imposées, et que non, en fait, s'ils ont violé, c'est entièrement et totalement leur faute. Et je trouve que c'est vous imposer beaucoup de choses que de venir vous raconter à vous, une femme féministe, les violences qu'ils ont commises. Moi, personnellement, ça m'est déjà également arrivé que des hommes me mêlent pour me dire qu'ils étaient des violeurs. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'attendre leur parole. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la parole des victimes. Elle est encore... Il faut arrêter de penser que MeToo et Balançon Port a été un grand moment et que ça permet une prise de conscience de la parole des femmes et des hommes victimes de violences sexuelles. Il y en a eu d'autres dans l'histoire qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été suivies des faits. Là, la parole est encore trop fragile des victimes pour qu'on commence à s'intéresser à celle des violeurs repentis, en quelque sorte.
Et à la fois, moi non plus, je ne sais pas quelle place accorder à cette parole. J'ai suspendu mon jugement pour l'instant, je ne sais pas. Mais je trouve ça très intéressant que vous disiez que ce n'est pas le moment d'aller voir les victimes et de leur imposer le récit. Mais à la fois, enfin, c'est impossible de savoir en réalité, parce que peut-être des victimes attendraient la reconnaissance de ces faits-là.
Peut-être, mais est-ce qu'on a envie de prendre le risque? Est-ce que face à une victime qui s'est reconstruite malgré ça ou avec ça, on a envie de prendre le risque? Pourquoi en fait? Pour quelle raison? Pour se rassurer? Pour être sûr qu'elle nous a pardonné? Il faut aussi s'interroger sur les raisons qui font qu'on en parle. Pourquoi ces hommes-là décident d'en parler? Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va changer de dire par mail qu'ils ont été violeurs, en fait? Ça change strictement rien. À eux d'adopter un comportement impeccable, un comportement décent, pudique, de ne pas s'affirmer comme féministe. Moi, ça me semble extrêmement compliqué, lorsqu'on a été coupable d'un acte aussi violent que le viol, de s'affirmer publiquement comme féministe, par exemple. Ça me semble définitivement impossible. Je pense qu'il faut se faire, petit, qu'il faut avoir une attitude impeccable dans sa vie privée, sa vie publique. Mais non, on a perdu certains droits et ça n'est que justice, en fait.
Certains droits, notamment celui de se dire féministe.
Tout à fait.
Sauf dans le cas où la victime les a accusés ou les a confrontés. Mm-hmm. Et là, ça paraît quand même important de reconnaître ce qu'ils ont fait.
Bien sûr, tout à fait.
Ça, c'est un cas qui est différent, quoi. C'est une autre démarche que d'aller voir la femme ou l'homme qu'on a violé en lui disant, au fait, je pense que j'ai fait ça dans le passé.
Il faut le reconnaître, mais il faut faire attention à la manière dont on le reconnaît, comment on le reconnaît, dans quel contexte on le reconnaît. Parce qu'en fait, il y a une... telle minimisation dans notre société des violences sexuelles, contrairement à ce que certains affirment, qu'on en est presque au stade où lorsqu'un homme va reconnaître avoir commis des violences sexuelles, on va l'applaudir en disant « Oh là là, mais comme c'est bien qu'il le reconnaisse enfin !» Non, se comporter comme un être humain décent n'a rien de bien, c'est juste la norme, en fait.
Enfin, ça devrait être la norme.
Ça devrait être la norme.
Et en même temps, en France, il n'y a aucune étude qui est faite sur les violeurs.
Non.
Donc je me dis que ce serait aussi une parole intéressante dans
bien
des
sûr.
Études comportementales, psychologiques, etc. Et ça, ce serait quand même, enfin ça, et vous insistez aussi là-dessus, que ça paraît quand même indispensable qu'il y ait de véritables études maintenant qui soient faites sur les violeurs.
Alors en fait, toujours aux États-Unis, il y a un chercheur qui a travaillé sur les violeurs non détectés. Il s'est uniquement intéressé aux violeurs, donc il ne s'est pas intéressé aux agresseurs sexuels dans leur totalité. Donc il a travaillé sur une population type d'étudiants, parce que c'était là où c'était le plus facile de trouver une population à étudier. Et il a constaté qu'il y avait donc un certain nombre de ces étudiants qui avaient violé. Et que parmi ces étudiants violeurs, il y en avait une partie qui était des multirécidivistes et qui était aussi coupable d'autres actes comme du harcèlement, de la violence sur des enfants, de la violence physique sur d'autres hommes ou sur d'autres femmes, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant de connaître le profil des violeurs, parce qu'en fait, on ne peut pas mener de bonnes campagnes contre le viol sans savoir à qui on les adresse. Typiquement, on va comparer avec les campagnes de la sécurité routière. On a étudié qui avait des accidents. On sait que, par exemple, il y avait une proportion assez importante de jeunes qui, en sortant de boîte de nuit, avaient picolé, prenaient le volant, etc., et avaient des accidents. Donc, on s'est adressé à cette population-là. On sait que, par exemple, l'alcool joue un rôle dans les accidents de la route. Donc, on peut adresser des campagnes parfaitement bien ciblées. Tant qu'on ne connaît pas les violeurs, on continue à produire des campagnes comme la fameuse « Non, c'est non », qui, à mon avis, passe complètement à côté de la plaque.
Donc, parce que le problème, c'est pas que les hommes ne comprennent pas le nom, le problème c'est qu'ils ne l'acceptent pas.
Tout à fait. C'est bien le problème, encore une fois, d'après des études. Donc, il y a eu de nombreuses études dans les pays anglo-saxons, et je pense qu'il faudrait faire les mêmes en France pour exactement cibler qui sont les violeurs. Par exemple, en France, il y a eu une étude intéressante sur les violeurs condamnés, qui représente une toute petite partie des violeurs, qui ont démontré que, contrairement à une idée reçue, la majeure partie d'entre eux ont une vie sexuelle en dehors des viols. Je précise en dehors des viols, parce que la plupart d'entre eux considèrent que le viol fait partie de leur vie sexuelle, et qu'ils en sont extrêmement satisfaits. Donc ça veut dire que ça remet en cause pas mal de nos idées reçues, encore une fois, sur les violeurs. Et il faut s'intéresser à cette population-là.
Pour terminer, Valérie et Robert, quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurices ?
Donc, Certains l'aiment chaud de Billy Wilder.
Un film de 1959. Alors pourquoi Certains l'aiment chaud ?
Some Like It Hot.
Parce que je trouve que le travail de Wilder sur le genre, en particulier masculin, est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc, quelle est l'histoire de Certains l'aiment chaud ? Deux hommes, donc parfaitement à l'aise dans leur masculinité, vont assister à une scène où des mafieux interviennent, vont devoir s'enfuir, et pour s'enfuir vont se déguiser en femme, intégrer une troupe dans laquelle il y a la fameuse Marilyn Monroe. L'un d'entre eux va immédiatement en tomber amoureux, et il va avoir tout un jeu où on va les voir aux prises avec les mafieux. L'un d'entre eux va être séduit par un milliardaire. Et la fameuse scène de fin, donc un des deux est toujours en femme. Il finit par confier à ce fameux milliardaire qui est amoureux de lui qu'il n'est pas un homme. Et le milliardaire... Qui n'est pas une femme, pardon. Et la scène de fin va être « Personne n'est parfait ». Et on se rend compte que dans cette Amérique de la toute fin des années 50, où l'homosexualité n'est absolument pas un sujet, elle ne peut absolument pas être abordée sinon sous forme extrêmement ridicule, Billy Wilder arrive à nous dire qu'au fond, elle est possible, qu'un couple d'hommes, c'est possible. Il est aussi évoqué le fait qu'un des personnages du film est impuissant. Encore une fois, dans l'Amérique extrêmement puritaine, pour le coup, des années 50, c'est quelque chose qui est normalement quasi impossible à imaginer. Et donc, je trouve que pour ça, le film, alors il s'agit évidemment pas d'en faire un film féministe, mais de constater qu'il nous offre tout un tas de types de masculinité à étudier et qu'il est, à ce titre-là, extrêmement intéressant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie et Robert. Je rappelle que votre livre « Une culture du viol à la française » est publié aux éditions Libertalia. Je mettrai les références sur le site de ce podcast, www.binge.audio. Chers auditeurs, si vous voulez conseiller cet épisode et tous les autres à vos amis, dites-leur que pour nous trouver, c'est très facile. On est sur YouTube, Spotify, Deezer et bien sûr sur n'importe quelle application de podcast, sur tous les téléphones et autres tablettes intelligentes. Moi, vous pouvez m'écrire à lescouillessurlatable@binge.audio. promis, je finis toujours par répondre. Et puis un grand merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, ça me fait plaisir. Et puis ça aide le podcast à se faire connaître. Les Couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. On produit également 24 autres podcasts sur des tas de sujets différents et passionnants. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de binge.audio. Merci à Quentin Bresson pour la prise de son et la réalisation et à Camille Regage pour l'édition. À bientôt.
Binge.
Très bien.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.